MIPIM 2025 en partenariat avec Envie de Ville by Nexity sur Radio Immo.
On continue notre périple cannois cet après-midi. On est en direct du Palais des Festivals et je suis accompagné toujours de Sylvain Lévy-Valency. Ça va Sylvain ?
Toujours au taquet.
Toujours au taquet, très bien. Bah, encore plus au taquet parce qu'on reçoit un habitué de chez nous. Toujours un plaisir de le recevoir, Xavier Bellevaux. Bonjour Xavier.
Bonjour messieurs.
Xavier, vous êtes directeur général de WeInvest France.
Tout à fait.
Comment ça se passe WeInvest en ce moment ?
Écoutez, ça se passe plutôt bien.
Voilà, ça a été une belle année.
Alors, ça a été un bon début d'année parce qu'on a, on a ouvert en septembre. Là, on a eu, je suis venu justement sur le MIPIM parce que j'ai pas mal de rendez-vous professionnels qui sont positifs, donc c'est toujours agréable. Donc voilà, donc pour le moment, ça se porte mieux que le soleil.
C'est vrai.
Qui n'est pas là aujourd'hui.
C'est vrai. L'année dernière, on avait eu un temps radieux.
Incroyable.
Ouais, l'année dernière, on avait eu 4 jours de soleil. Bon, là, ce sera peut-être un peu moins ensoleillé, mais on voit des éclaircies sur le marché de l'immobilier. Est-ce que vous le sentez sur ce début d'année ?
Alors, on le sent depuis le mois, effectivement, de novembre-décembre. On voyait bien que sur la transaction dans l'ancien. Les repreneurs, les acquéreurs étaient à nouveau là. Et là, on le voit de plus en plus, effectivement, avec les annonces qui ont été faites.
Ouais.
Voilà, notamment pour les primo-accédants. Sur les différentes mesures, on voit en fait qu'il y a un essor, la stabilisation des taux, plutôt que parler de baisse des taux, on est plutôt sur une stabilisation. Ouais. Ça aussi, ça permet un peu de se dire, ben voilà, on va réguler enfin le marché de manière cohérente, on permet de se projeter. Où on a des difficultés toujours aujourd'hui, c'est surtout sur la location et la promotion. Il faut quand même se dire qu'on a perdu en 2024, je crois que c'est 50%. Mmh. De moins sur la promotion immobilière, donc sur la construction.
50% et 49% d'offres de location en moins.
Donc ça veut dire que dans les prochains 36 mois, en réalité, on va se retrouver à nouveau avec.
Oui, parce que tout ça est décalé.
On va se retrouver avec une crise parce que forcément, on aura à nouveau un déficit de foncier, un déficit de logement. C'est mécanique, c'est-à-dire comme on a beaucoup moins de construction, il y aura beaucoup moins de ventes qui se feront, beaucoup moins d'installations, beaucoup moins de locations. Et comme avec tout ce qui s'est passé autour du PTZ, notamment ce qui est en train de se mettre en place sur le MMP, n'incite pas les investisseurs non plus à être à nouveau très présents. Donc en réalité, on va dire que pour le moment, c'est très bien, mais il va falloir aussi surtout qu'on soit prudent et vigilant dans l'accompagnement de nos clients, car effectivement, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains 36 mois.
Et la reprise en main de la ministre qui était sur notre plateau, Sylvain, tu l'as interrogé tout à l'heure, c'est plutôt de bons signaux qu'elle a envoyés ?
Des signaux... On ne peut pas dire des bons signaux, c'est-à-dire qu'elle répare une crise, elle essaye de réparer une crise importante.
Elle met les choses dans la bonne direction.
La ministre du Logement, elle a l'avantage d'avoir très bien compris ce qui se passe au niveau de la crise immobilière et qu'elle tente de la... Je vais vous donner un exemple. C'était pas gagné d'avoir l'extension du PTZ sur la maison individuelle et sur l'ancien. Elle a réussi à l'obtenir de Bercy. Elle a réussi également à obtenir une baisse de la RLS, la réduction de loyer de solidarité, pour le logement social, et que c'est quand même un sujet d'actualité. Maintenant, le problème, c'est le stock. Combien de temps il faudra pour rebâtir un stock sur le neuf et comment on relance le marché de la location privée ?
Je pense qu'il y a deux problèmes. C'est-à-dire qu'en réalité, on a beaucoup de chance d'avoir une ministre qui connaît ses dossiers, qui est présente, qui est engagée, mais la problématique, c'est qu'elle n'a pas, pour le moment, en tout cas, les budgets nécessaires pour porter bien plus haut l'immobilier.
Bien sûr.
Et ça, c'est une vraie difficulté parce qu'aujourd'hui, effectivement, elle remet sur les rails des choses qui n'allaient pas. Et ça, on ne peut que la saluer, on ne peut être que satisfait, y compris pour les primo-accédants, parce que de refaire en sorte d'ouvrir également, de faire en sorte qu'il n'ait pas de droit d'enregistrement, ça aussi, c'est un élément fort, un engagement fort. Donc ça, ça va être positif. Donc ça veut dire qu'on va retrouver du CCMI, du projet de construction individuelle. Ça, c'est une chose. Mais comme en réalité, les coûts sont beaucoup plus importants aussi aujourd'hui.
Oui. Est-ce que ça va fonctionner sur le long terme ? Est-ce que ce n'est pas un marché qui va être sous perfusion pendant quelques mois et on verra les problématiques sur le long terme ?
Comme je dis toujours, j'ai pas de boule de cristal.
Mais
le pire est derrière nous, en tout cas sur la partie transaction, ça c'est un élément important.
Oui, alors ça c'est vrai, on est d'accord, ça repart. Oui.
Non, sur la transaction.
On voit bien que les mouvements. Oui, non.
Là aujourd'hui ça va. Après, il y a des endroits où effectivement il faut qu'on soit vigilant, nous, agents immobiliers, conseillers immobiliers, mandataires immobiliers, de bien faire comprendre à nos clients que c'est pas parce que tout simplement les taux se sont stabilisés et que ça repart qu'on doit essayer tout de suite de revendre plus haut parce qu'effectivement c'est pas la bonne méthode. Aujourd'hui, en fait, ce qui se vend, c'est le vent qui est au bon, c'est ce qui est au bon prix de cession. Voilà, il faut être cohérent. C'est-à-dire qu'à un moment, le Covid est terminé. Je pense que des très gros coûts qu'on a eu pour certains vendeurs au moment du Covid, qui ont vendu parce qu'ils avaient des extérieurs à des fois à 30 km de Paris, à peut-être 30% de plus de la valorisation, malheureusement aujourd'hui, on ne les récupérera pas. On les récupérera pas. Et encore moins en les mettant à la location.
Les gens ont voulu vraiment des extérieurs, quitte à faire de la route. Ils en sont revenus, on est d'accord.
Bien sûr.
On a touché du doigt une autre vie pendant quelques mois et on s'est dit qu'une autre vie était possible qu'un appartement dans une ville et on a voulu acheter de l'extérieur, des maisons. L'acte d'achat, il avait peut-être évolué à cause du Covid, Et là, ça revient vers...
Non, mais mieux que ça, est-ce que ceux qui sont allés dans les villes moyennes, qui pensaient à être une encablure de leur boulot en disant « je vais faire du 4 jours, 3 jours », est-ce que ça a tenu?
Bah, le problème, c'est qu'on voit dans les faits que c'est en train de ne pas tenir pour deux raisons. Dans le couple, quand on a vécu qu'à Paris, qu'on est citadin, si on n'a pas un vrai projet de vie à la campagne, on s'aperçoit qu'on s'ennuie, parce qu'on ne voit plus nos amis de la même manière, etc. Donc ça, c'est un point qui est déjà important, il faut être clair.
Oui, c'est vrai.
Bien sûr, même si on y va d'abord pour les enfants, etc. Donc ça, c'est un premier point. Puis le deuxième sujet aujourd'hui, beaucoup d'entreprises reviennent sur le télétravail. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je fais partie des exceptions. J'ai mes collaborateurs, pour le moment, le lundi et vendredi, on télétravaille. Donc quand je parle avec
deux jours par semaine,
tout le monde me dit, mais Xavier, nous, on les a fait revenir un jour sur deux. Je dis, mais il n'y a pas de sens quand tu habites à Paris. Des fois, pour 40 bornes, tu peux mettre deux heures dans les transports.
Non, on a un problème avec le télétravail dans ce pays parce qu'on n'arrive pas à le considérer, à l'appréhender. C'était un gros mot avant le Covid. Et ça redevient un gros mot.
Oui, mais
ça n'est plus un gros mot.
Bah, ça redevient un gros mot.
Oui, mais alors la problématique, c'est plutôt les coûts. C'est-à-dire qu'en réalité, on est venu sur des problématiques de bureaux un peu hybrides. C'est-à-dire qu'on disait on va réduire les bureaux. Pour autant, les sièges, on ne les a pas réduits tant que ça.
Oui,
et on a commencé à dire, pour par exemple une entreprise de 100 collaborateurs, si 50 sont en télétravail, s'ils habitent aujourd'hui à 30, 200, 400, 800 km du siège, mais ne serait-ce que s'ils viennent une fois par semaine, deux jours, il faut les loger, il faut prendre les coûts aéroport, enfin les coûts d'avion, les coûts SNCF, tout ça, c'est des coûts qu'il n'y avait pas.
Donc ça a multiplié les coûts.
Ça a multiplié les coûts, en réalité. La problématique, elle est plutôt là, elle est plutôt dans aujourd'hui, comment on équilibre le compte de résultats, voilà. Ouais. Comment on fait en sorte que ça se passe bien.
Et d'ailleurs, la consommation du mètre carré, elle en fait partie, puisqu'on voit bien qu'un des effets du télétravail, par exemple, c'est la réduction du volume d'occupation du mètre carré. Mais quand même, il y a beaucoup de mètres carrés inutilisés.
Oui, mais pour autant, on n'a jamais eu autant de demandes de balcons. Aujourd'hui, on voit bien, tout le monde veut un extérieur. Et dédier une chambre, entre guillemets, pour la partie bureau.
Mètres carrés inutilisés, ce qui est quand même assez dramatique. Et
c'est dingue.
Les taux d'occupation, quand tu sais qu'aujourd'hui... les Français sont mal logés, quoi. J'ai rien. Dans l'énoncé, il y a une contradiction qui est quand même assez
sévère. Mais Sylvain, on a une autre problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde nous parle des extensions dans les maisons. Mais aujourd'hui, les coûts de la rénovation dans l'ancien ont tellement explosé également qu'en réalité, par moment, tu te rends compte quand tu veux faire une extension de 30 mètres carrés, tu en as au minimum pour 100 000 balles.
Donc à un moment, qu'est-ce que tu fais? Les coûts, les normes, tout est
plus. Et qu'est-ce que tu fais? Tu dis, tu n'as pas le choix. Tu dois aller dans une maison plus grande.
Tu habites à Neuilly.
Et si tu n'as pas le budget?
Tu peux faire 100 000 euros de travaux puisque tu sais que tu feras de la valorisation. Mais le coût du travail, le coût des travaux est le même dans une ville où 100 000 euros te fera donner une valeur négative. En fait, en réalité, ces travaux, si tu les fais, par exemple, à Dreux, à Roubaix, c'est le même prix. Sauf que ta maison, elle ne vaut plus rien. Parce que le coût des travaux est supérieur à la valeur de la maison.
Mais ça revient aussi sur une autre problématique assez importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la rénovation énergétique. Ouais. On parle du DPE. On voit bien aujourd'hui, j'ai le cas il n'y a pas très longtemps, je disais ce matin dans la presse, une grosse entreprise d'enseigne de changement de vitres, enfin tout ce qui s'occupe des vérandas, des vitres, etc., a déposé le bilan du côté de Chalon-sur-Saône dans le 71.
Ah bon ?
Et ça a laissé une liste de propriétaires sur le carreau avec des enfants qui avaient tous versé des acomptes, des fois des acomptes allant jusqu'à 25 000 euros, et ils se retrouvent à plus d'être 200, parce qu'ils étaient tous là en se dire on va faire de la rénovation énergétique parce qu'on n'a pas le budget d'aller ailleurs. Et là, les gens se retrouvent dans la pénurie. Et ça aussi, c'est une autre problématique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la rénovation énergétique sur deux tableaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout se confronte. On n'a plus le droit. On a une interdiction depuis le 1er janvier sur tous les biens avec le DPE qui est supérieur âgé. Mais la problématique derrière, c'est qu'on a de moins en moins de biens qui sont alloués. Donc on a une espèce de paradoxe qui est en train de se créer en disant, d'un autre côté, on n'a plus de construction. Enfin, on est pratiquement à l'arrêt pendant 2024. On a perdu 50%. D'un autre côté, on a de plus en plus de normes et de règles pour louer des biens. Alors, c'est sûr qu'on ne doit pas avoir de marchand de sommeil, mais du coup, ça devient problématique. Et dans les habitations, dans les HLM, aujourd'hui, on a un autre problème, c'est qu'on a de plus en plus de couples qui divorcent par rapport à 30 ans. Donc, on a de plus en plus de mères isolées qui se retrouvent à devoir avoir un appartement. Avec au minimum de chambres, on ne les trouve pas tant que ça, parce que c'est quand même assez difficile d'avoir du F3 aujourd'hui. Donc, tout ça lié fait qu'on a une espèce de saturation et qu'en réalité, une des premières causes qu'on devrait aussi aujourd'hui avoir et on devrait donner les moyens à notre ministre, c'est bien pour ça. Parce que ça, l'avenir va être très compliqué pour
apprendre. On crée un marché à plusieurs vitesses.
Bien sûr.
Ouais.
Bien sûr. Et dans la rénovation énergétique, mais on l'a déjà eu, mais on l'aura de plus en plus. On aura à nouveau des villes, entre guillemets, à plusieurs vitesses.
Ouais.
Voilà. La ville aujourd'hui qui est bien gérée, qui est assez grande pour avancer, mais les autres n'auront pas le choix de se regrouper à un moment, sinon ça ne fonctionnera pas.
D'ailleurs, vous parlez à ce sujet souvent de la ville de demain, d'évolution de la ville de demain.
Oui.
Vous projetez souvent sur l'évolution de notre rapport à la ville.
Non, mais c'est intéressant. Enfin, je peux me permettre, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul patron de réseau immobilier de transaction, mais même s'il fait de la gestion, qui se pose cette question-là.
Tu vas plus
souvent, je ne sais pas si tu as remarqué, on a les patrons de foncières, des aménageurs, des penseurs. Et lui, toi, Olivier, Xavier, c'est intéressant cette réflexion, parce que je pense qu'elle nourrit même dans le... Dans la façon métier. De parler aux collaborateurs, d'amener les gens à faire même du business en transaction, différente. Moi, je trouve ça
l'immobilier aujourd'hui est c'est un tournant intelligent, moi, je trouve. Que de la transaction. Ouais. Je l'ai toujours dit et je le dirai de plus en plus, il est trop à risque. Et aujourd'hui, on est obligé, quand on fait de l'immobilier, de s'intéresser à tout son environnement. Ouais. Celui qui s'intéresse qu'à un segment de son métier, ce n'est pas possible. Et indirectement, on est tous touchés. Quand tu n'as pas de construction... Bah, à un moment, vous savez, un agent immobilier, le nombre de ventes qu'il fait à cause des divorces, parce qu'un projet de construction et des séparations, ça dure en moyenne 2 ans et demi. Au bout de 2 ans et demi, il y a un couple sur 4 qui se dit on arrête, voilà, et bien tu te retrouves à vendre le bien. Donc tu commençais à commercialiser du bien à la rentrée. Bah, cette partie-là, on va moins l'avoir. Donc tout ça va avoir en fait un mécanisme qui fait qu'aujourd'hui, on a des respirations, et ça c'est important, et on n'aura pas de problématique dans la transaction dans un sur les maisons, etc. Mais effectivement, on a absolument besoin que nos promoteurs immobiliers aujourd'hui et nos constructeurs soient beaucoup mieux épaulés, qu'on ait un dispositif qui soit beaucoup plus incitatif pour les investisseurs. Et aujourd'hui, c'est pas la dynamique qu'on
a. Quand tu parles de dispositif, tu parles du statut du bailleur privé, par exemple.
Bien sûr, c'est un élément.
Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que si on reconnaît le statut du bailleur privé, il faudrait lui donner un peu un coup de boost fiscal.
Oui, mais
aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose.
Oui, mais c'est aussi qu'on a un problème en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, gagner de l'argent, c'est un gros mot. Ouais. Mais on a bien besoin d'avoir des bailleurs privés. Parce qu'aujourd'hui, si on n'avait pas les bailleurs privés, comment on ferait pour louer? Qu'on me l'explique. Ouais, bien
sûr. 62% des locataires du parc locatif privé sont éligibles au logement social. Donc on a tout résumé.
Bien sûr.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, les agents économiques au quotidien pour le logement des Français sont les bailleurs privés. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont?
Ben, ils ont très peu d'avantages.
Très peu.
Voilà, donc c'est une réalité.
Est-ce que certains n'auraient pas envie d'avoir, au lieu d'avoir des acteurs, des bailleurs privés, plutôt des bailleurs institutionnels qui possèdent tout un ensemble du parc, et du coup ce serait... simple, plus, je sais pas, est-ce que c'est... Certains voudraient qu'on se dirige vers ça.
On a un peu de tout, vous savez, c'est comme le client qui à un moment a quelques biens, mais n'en a pas beaucoup, il dit, ben moi je veux m'adresser à mon agence immobilière de proximité parce que ma gestionnaire, elle va gérer mon dossier, parce qu'elle me connaît. Et j'ai pas envie d'aller dans cette grande enseigne où on va être un numéro. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, depuis quelques années, on a un retour aux sources pour le client. Ouais. On revoit du rapport. Le client veut compter, veut dépenser son argent avec intelligence, j'ai envie de dire. Il veut être moins numéro. Donc, objectivement, je ne suis pas tout à fait convaincu.
Expérience.
Il veut une vraie expérience. Ouais. Voilà. Il veut une vraie expérience. Et surtout qu'on a tellement de dispositifs aujourd'hui, autres que la pierre, quand on entend... Mmh. On voit bien, aujourd'hui, avec 100 euros, vous pouvez devenir propriétaire de tout si vous écoutez les réseaux sociaux.
Ouais, donc, arrivé à un moment... D'une partie du commerce...
Et, non, mais j'aimerais bien... Si, Olivier.
Xavier, pardon. Xavier, ça sera bien. Non, mais c'est pas grave, ça fait des années.
Non, mais j'aimerais bien, Xavier, que tu pousses un coup de gueule une fois avec tous ces charlatans là,
Sylvain, ils les aiment pas.
Qui te font rêver. Non mais attends, qui te font rêver. On a reçu à Sud Radio un bouquin en disant si tu veux devenir milliardaire, tu m'appelles.
Non, c'était comment devenir riche sans argent.
Oui, mais alors dans les faits, il y en a qui arrivent. Il y a toujours des exceptions pour confirmer les règles.
Mais
la problématique qu'on a derrière, c'est comme penser que faire de l'immobilier, c'est facile.
Mais c'est ignoble de faire rêver les gens comme ça. Oui, ça sert strictement à rien.
Je pense juste qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a des possibilités de diversifier ses revenus et ses actifs. Et ça, c'est une bonne chose. Ça a toujours été le cas. Voilà, on avait de l'assurance vie, on avait des SCPI, c'était déjà existant. Aujourd'hui, on a de la crypto, on a d'autres choses. Pourquoi pas, why not? Je dis juste qu'il faut être vigilant parce qu'à un moment, quand les gens investissent, il faut quand même que les gens, il y a de la sueur, il y a du travail, donc il faut quand même qu'il y ait une vraie rentabilité derrière.
Dernière question, le réseau WeInvest en France est en train de bien performer, au grand dam de certains acteurs et de players du secteur. Je trouve ça extrêmement intéressant. Ce qui démontre une chose, c'est que ce n'est pas forcément la cause qui était atteinte, mais la façon et la méthode que tu as su peut-être développer. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, on voit qu'aujourd'hui, la question centrale de la formation ressort, à l'instar de ce qui s'est passé avec l'AFNAIM qui a réussi à obtenir la publication, dans moins de 6 mois, du décret d'application pour la formation. Et toi, on a fait une émission sur l'éthique et l'immobilier qui a très bien marché, où tu parles de la formation, de la façon éthique de faire son métier, où tu insistes bien sur le caractère métier. Quand tu vois tous ces mouvements et tu te dis « j'avais raison avant tout le monde » ou comment ça se passe?
J'ai pas pour habitude de dire « j'avais raison avec tout le monde » et je pense que c'est pas...
Ta méthode, elle fonctionne apparemment.
Ma méthode, en fait, notre méthode, parce que je suis pas tout seul, on aurait une équipe avec moi.
Oui, non, mais c'est une vraie méthode.
Mais je pense qu'en fait, notre pari, ça c'est moi. La stratégie, c'est la mienne. Mais je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, je crois qu'on a besoin de créer des liens, on a besoin de créer des ponts. Vous disiez il n'y a pas très longtemps dans une émission, on a le choix, et c'est Coluche qui disait ça, hein. Soit on a le choix, soit c'est des ponts, soit c'est des murs. Ben moi, je préfère en fait tout simplement traverser des ponts que traverser des murs. Donc je pense qu'on a dans la profession, on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de ne pas s'apprécier. Mais à un moment, on doit à minimum essayer de collaborer ensemble. Parce qu'il y a des guerres de factions qui n'existent plus.
C'est
aujourd'hui,
productif pour personne.
J'ai l'exemple concret, j'ai des agents immobiliers qui sont des tartes, c'est une réalité. Et il y a des mandataires immobiliers qui sont des bombes. Et je pense que tout simplement, c'est une question d'envie, une question de volonté. Et on avait la même chose avec les taxis et les Uber, rappelez-vous. À un moment, on les a confrontés. Et en réalité, c'est le client qui choisit. Et je pense plus que jamais, je pense qu'il faut qu'on arrête de croire que nous, agents immobiliers, on a la main sur notre client. Aujourd'hui, le client, c'est lui qui a la main, mais pas que dans l'immobilier, dans tous les segments de métier. Donc, il faut tout simplement qu'on soit là pour l'écouter.
Eh ben, amen.
C'est toujours...
Alors, je pense que c'est une belle conclusion.
Elle me va très bien, cette conclusion. Voilà.
Bah, mais... Xavier, on était ravis de te recevoir.
Non, mais non. Dans 50 ans, on écrira des psaumes. Ainsi parlait Xavier Bellevaux.
Et bah, écoutez, c'était le premier psaume de Xavier Bellevaux au MIPIM 2025. Merci beaucoup d'être venu chez nous, en tout cas, Xavier.
Merci à vous, messieurs.
Et à très bientôt.
Merci.
MIPIM 2025 en partenariat avec Envie de Ville by Nexity sur Radio Immo.